Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast. Je vous retrouve aujourd'hui pour la 5e saison de Dans ma vie d'infirmière. Depuis plusieurs saisons, ce podcast donne la parole à celles et ceux qui font vivre le monde de la santé, soignants de tout horizon et patients au parcours inspirant. Ensemble, on explore les réalités, les émotions, les défis et les belles surprises de ce métier qui ne laisse jamais indifférent. Merci d'être toujours plus nombreux à écouter, à partager, à faire vivre le projet. Alors, installez-vous confortablement, car un nouvel épisode vous attend. Bonne écoute! Bonjour à toutes et à tous. Je vous retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode du podcast aux côtés de Angélique, technicienne de laboratoire. Elle nous emmène dans les coulisses de son métier, extrêmement méconnu, mais pourtant indispensable au diagnostic, traitement et suivi des patients. Entre technicité et rigueur scientifique, elle nous explique son quotidien, ses responsabilités et l'importance de chaque résultat rendu. Elle revient aussi sur la période du Covid, une période particulièrement éprouvante. Des journées à rallonge, un rythme effréné et des conditions de travail pas toujours évidentes. Un témoignage précieux pour mettre en lumière un métier de l'ombre, trop souvent oublié mais pourtant essentiel au parcours de soins. De nombreux termes techniques sont cités tout au long de l'épisode, mais pas d'inquiétude, vous retrouverez leur explication dans le lexique disponible dans la description du podcast. Bonne écoute! Bonjour Angélique, et merci beaucoup d'avoir accepté de venir témoigner sur le podcast. Avant tout, la question classique, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît?
Bonjour, du coup je m'appelle Angélique, j'ai 34 ans et je suis DSM de labo en sein de la thérapie cellulaire de l'EFS.
Pour commencer, est-ce que du coup tu peux nous retracer ton parcours et ce qui t'a amené du coup à devenir technicienne de laboratoire?
Depuis que je suis enfant, j'ai toujours voulu faire des sciences, j'étais très douée en SVP, en sciences nat, etc. Et tout ça, ça me fascinait, mais en fait je n'arrivais pas à trouver vraiment ma voie. Je suis passée par des envies de vétérinaire, de médecin légiste et même de thanatopracteur, donc c'est vraiment rien à voir avec ce que je fais maintenant. Mais en fait, tout ça, ça demandait beaucoup d'études. Et j'avais pas la patience d'attendre jusque-là. Et en fait, je voulais commencer à travailler assez rapidement, je voulais devenir indépendante. Donc je me suis pas mal renseignée et j'ai découvert qu'il existait des métiers de technique dans les laboratoires. Un peu les petites fouines qu'on peut voir dans les séries télé. Je dis « Ah, mais ça c'est pas mal et tout ». Donc du coup, je me dis « Bah, je vais tester ». Et en fait, pour faire ça, j'ai commencé par faire un BTS d'analyse bio. Donc avant, j'ai passé un bac scientifique. Et après, je suis partie donc un BTS et là, j'ai fait analyse biologie médicale. Il en existe d'autres. Parce que des techniciens de labo, il y en a beaucoup. Beaucoup de sortes. Et du coup, pendant ce diplôme, j'ai aussi passé mon diplôme de préleveuse pour être totalement polyvalente dans les laboratoires, parce que c'est ce qu'on nous demande maintenant. Il faut tout savoir faire. Donc si on pouvait passer un diplôme de secrétariat, je pense qu'on le passerait aussi, parce que du coup, j'en parlerai plus tard, mais du coup, j'ai fait aussi beaucoup de secrétariat. Et une fois que j'ai été diplômée de ça, j'ai voulu me spécialiser un petit peu. J'ai fait une licence pro en microbiologie. Et après ça, j'ai commencé à postuler pour chercher du boulot, etc. Donc quand j'ai fini mes études, j'ai commencé à travailler dans les labos de ville. Donc les labos où on va faire les prises de sang, etc. J'ai commencé comme ça. Donc en tant que technicienne préleveuse. Et après, notre cher ami le virus Covid est arrivé. Et là, ça a été un peu le début de l'enfer pour moi. Donc en fait, c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que je voulais sortir de l'engrenage un peu du quotidien de voir les patients, les prélever, de voir les patients, les prélever, etc. En fait, c'est vraiment très 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 monotone et il n'y a rien de gratifiant vraiment. Enfin, gratifiant, si on peut dire qu'on veut être gratifié, mais il n'y a rien de... En tout cas, pour moi, c'était ennuyeux, quoi. Donc du coup, j'ai commencé un petit peu à chercher ailleurs. Je voulais quand même rester dans la technique, c'était... ma base principale, et j'ai réussi à trouver une cachette dans un plateau de technique. Donc là, en fait, on ne voit pas du tout de patient. On fait que vraiment de la technique avec les tubes, il n'y a pas de clientèle, etc. Et j'utilise bien le mot clientèle parce que maintenant, le problème des laboratoires de ville, c'est que c'est plus des patients, ce sont des clients. Et c'est un truc qui commençait à m'embêter un peu aussi, parce que il n'y a pas le côté vraiment service médical pour moi. Donc au bout de quelques années, je me suis dit « c'est pas vraiment ce que je veux faire » et tout ça. Et puis en fait, notre laboratoire, il a été racheté. Et ça a été un peu la suite de l'enfer que j'ai connu après le Covid. Et je me suis dit « en fait, c'est plus ça que je veux faire. Je veux vraiment trouver quelque chose où je veux être dans mes baskets, dans ma blouse, et quelque chose que j'aime vraiment, la vraie technique, quoi. » Puis du coup, j'ai commencé un petit peu à chercher, etc., etc. Et à la suite d'un burn-out, d'une dépression, pas forcément due au Covid, hein, parce que le Covid était déjà passé, mais en fait, à la suite de tout ça, quoi, je me suis dit « Allez, c'est maintenant ou jamais, c'est la porte de sortie. » Et j'ai commencé à chercher un petit peu partout, même dans des labos où j'étais pas en biomédical. Je suis allée vraiment dans l'environnemental, l'alimentaire, etc. Même si c'était pas le même diplôme, j'ai quand même voulu voir si je pouvais trouver quelque chose. Et puis, je me suis dit, je vais aussi tenter l'EFS, même si je me suis dit, voilà, même si je rentre à l'EFS, au pire des cas, je ferai de la distribution, parce que moi, je connaissais que ça de l'EFS. Et en fait, il existe autre chose. Et du coup, j'ai eu un entretien avec le centre de thérapie cellulaire. En fait, ça a matché tout de suite quand ils m'ont montré comment ça travaillait, qu'est-ce qu'on devait faire, etc. Je me suis dit, oh! Mais en fait, c'est ça que j'ai toujours voulu faire. Et donc, depuis novembre 2023, je travaille au sein de la thérapie cellulaire à l'EFS.
Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste ton boulot au quotidien? Donc, tu as commencé déjà par
Ouais.
l'EFS, mais qu'est-ce que tu fais?
Bah, du coup, mon travail, il consiste en fait à vérifier la stérilité des produits qu'on reçoit et de transformer au besoin des poches de cellules souches pour des futures greffes, pour des patients atteints de maladies du sang comme des leucémies ou des myélomes. On est aussi amené à travailler avec des sangs de cordon pour des dons intrafamiliaux. Ça arrive, il y en a pas beaucoup maintenant par rapport à une certaine époque, mais ça existe toujours. On peut toujours faire des dons d'un frère qui arrive en naissance. Du coup, le sang de cordon est très 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 riche. Et donc en fait, on récupère le sang de cordon avec l'accord de la mère, bien entendu, hein, parce que c'est pas comme ça, pour traiter souvent des drépanocytoses pour un enfant, d'un jeune enfant, quoi. Donc ça arrive très souvent, mais il y en a beaucoup moins qu'avant. Avant, les gens faisaient carrément des dons de leur sang de cordon pour d'éventuelles greffes, pour qu'on ait une banque de sang de cordon, mais c'était il y a 10 ans. Donc maintenant, on a une banque énorme de sang de cordon et on sait pas quoi en faire parce que bah, ça se fait plus, plus beaucoup en tout cas. Ils privilégient maintenant les poches de cellules souches ou les poches de moelle osseuse.
C'est ce que j'allais te demander,
Ouais, c'est
c'est
ça.
pourquoi ça s'était
C'est
arrêté.
ça. En fait, c'est plutôt un peu en dernier recours, vraiment, parce qu'ils vont d'abord privilégier la nouvelle technique qu'ils ont eue il y a quelques années maintenant, c'est justement les cellules souches. Donc ils vont faire des injections aux patients donneurs pour stimuler la moelle et qu'elle éjecte dans le sang, en fait, les cellules souches. Et en fait, ils vont faire simplement comme un don du sang. Ils vont faire un prélèvement comme ça. Donc on reçoit des poches comme un don du sang, quoi. C'est tout simplement, c'est rien de plus ni de moins. On a encore aussi beaucoup de dons de moelle osseuse, mais du coup, vraiment, les prioritaires, ça va être les dons de cellules souches. Pour faire un peu le tracé de comment ça marche, on a une base de données de donneurs et une base de données de demandeurs de greffe. Et en fait, quand le demandeur a besoin d'une greffe parce qu'il est pas bien, enfin, c'est son médecin qui va enclencher le système, mais du coup, on a notre service de DVMO. Donc la DVMO, c'est le donneur volontaire de moelle osseuse. En fait, c'est un service un peu secrétariat qui est dédié que à ça. Et eux, ils travaillent avec tous les EFS de France. Et du coup, ils travaillent avec les centres préleveurs mondiaux. Donc, en fait, cette base de données, elle est mondiale. Donc on a des centaines et des centaines de petits bonhommes qui sont prêts à donner leur sang ou leur moelle osseuse, quoi. Donc ils vont aller chercher dedans, dans cette base de données immense, un donneur potentiel. Mais il y a énormément de choses à vérifier pour que ça matche. Il y a forcément le groupe sanguin, c'est la base, parce que sinon après il y a un problème, hein. On va aussi vérifier le typage HLA, donc ça va être un peu plus poussé. Il y a aussi l'âge qui rentre en jeu, le sexe et le poids. Parce que si un adulte donne à un enfant, il va y avoir une grosse différence de poids. Et du coup, on va devoir faire des réductions de poche pour le donner, etc. Donc, il faut vraiment que tout puisse rentrer. Il y a des fois, tout ne rentre pas dans les cases. Donc, on doit faire ce qu'on appelle les transformations. Donc, c'est là qu'on va intervenir. Donc, il y en a beaucoup, forcément, parce que sinon, j'aurais pas de travail, hein. Mais en fait, on est obligé de faire matcher le plus possible ces éléments pour éviter d'avoir une GVH, du coup. Donc, le GVH, c'est un rejet, tout simplement. Un rejet de greffe, parce que ça reste une greffe, hein, c'est pas... Même si ça reste, c'est du sang, mais ça reste quand même une greffe, non, chez nous on appelle ça comme ça. Donc on va essayer d'éviter les rejets, ou même les contaminations parfois d'un donneur qui peut être contaminé, sans le savoir, forcément, parce que quand on va faire le prélèvement du donneur pour le receveur, on a 48 heures pour le transfuser. Et donc parfois le donneur, il va avoir un virus, un staph, un entérocoque, peu importe, on ne sait pas, mais on fait des contrôles. Mais en fait, le temps que les contrôles sortent, on va pas le savoir. Mais on va le savoir tout de suite quand le receveur va l'avoir, parce que du coup il va faire une réaction. Donc du coup c'est hop, antibiotique tout de suite, machin. Donc ouais, ça prend du temps de faire tout ça, mais une fois qu'on a tout qu'on a trouvé le bon donneur, on a aussi tout un processus de bilan sanguin à faire, qui est très important aussi pour vérifier justement qu'il n'y ait pas de HIV par exemple, de hépatite B ou que sais-je encore. Et après, il va y avoir les autorisations du patient donneur, du patient receveur. Ensuite, il va y avoir les papiers pour le transfert, si c'est en France, si c'est en Allemagne par exemple, enfin, peu importe. Donc voilà, on a beaucoup de choses à gérer au niveau des paperasses. Donc moi, je m'occupe de tout ça. Je m'occupe pas du service des VMO, mais je m'occupe de toute la paperasse qui est derrière. Donc ça prend du temps aussi. Les greffes en général, si c'est pas des greffes apparentées, le dossier il peut être ouvert 2 mois avant quoi. Donc il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer pendant ces 2 mois parce que le receveur il peut avoir un problème, le donneur aussi, donc on n'est jamais vraiment certain qu'on va faire la greffe, mais bon, du coup on a à peu près un délai de 2 mois. Et donc une fois que le don a été fait, dans mon service du coup on reçoit la poche et on peut la transformer, cette poche. Donc je peux par exemple la congeler. Pour la congeler et la garder pour plus tard. Donc ça va être plutôt des prélèvements autologues. Donc c'est le patient pour lui. À une période où il est bien, on va le prélever. Et quand il sera moins bien, on va ressortir la poche pour le transfuser. Donc en fait, cette poche, elle est congelée, mais il y a un processus à faire pour la garder et pas que les cellules éclatent. Parce qu'on les garde à moins 180. Moins 80 d'abord et après moins 180. Donc on les garde sous azote liquide en fait. Donc okay. L'azote liquide, c'est extrêmement violent. C'est pour ça qu'on a un process de moins 80 et après moins 180. Mais pour éviter qu'elle pète ses cellules, parce que la base c'est quand même pour ça qu'on les veut, et ben on va faire tout un process, on va injecter un produit intérieur qui va le conserver, etc. Donc quand on va devoir décongeler ses poches, pareil, il faut faire le processus inverse. Il faut enlever le plus possible ce produit afin de pouvoir donner le produit pur au patient. Donc ça c'est pareil, c'est un autre process aussi que je fais. Donc ça prend un peu de temps hein, forcément, hein, mais bon. Et ensuite, je peux aussi déplasmatiser les poches. Ça c'est quand il y a un problème au niveau des groupes sanguins qui sont pas compatibles par exemple. On peut aussi déplaquettiser les poches quand il y a beaucoup trop de plaquettes, c'est pas bon pour les greffes parce que ça peut justement faire une GVH, donc ça c'est pareil. Et après, comme je disais tout à l'heure, quand on a un adulte qui donne à un enfant, ben, on peut réduire le volume. Donc ça c'est la même chose, on fait, c'est une technique un peu différente, mais tout ça il faut que ça se passe dans les meilleures conditions possibles, donc je travaille dans une salle blanche, voilà. Du coup, donc comme je disais tout à l'heure, je travaille dans une salle blanche. Principalement, après, il y a tout ce qui est paperasse, ça reste au bureau. Mais ça, ça va être... donc nos salles blanches à nous sont à l'étage. Tout ce qui est non stérile, ça reste en bas. Nous, déjà, quand on monte en haut, on doit monter avec des blouses. Vous avez des cheveux attachés, petite Charlotte quand même pour... voilà. Et puis quand on rentre dans le local, on doit mettre des surchausses. Jusqu'à nos vestiaires. Une fois qu'on est dans les vestiaires, on peut commencer à se changer. Donc là, en fait, on va enlever toutes nos tenues de ville. À part, pour nous, les femmes, on garde nos sous-vêtements, pareil pour les hommes, hein, mais du coup nous on peut garder nos soutiens-gorge et notre bas, et on va enfiler un pyjama comme à l'hôpital, une Charlotte, et on se lave les mains avec le protocole bien connu de tous les opérés. Une fois qu'on a fait tout ça, on passe un premier sas, donc pareil on remet des surchaussons, et en fait on va passer 2 sas comme ça. On passe un premier sas où on a des premières surchausses, un deuxième sas où la pression va monter légèrement, et ensuite un deuxième sas, non pardon, baisser, je dis n'importe quoi, elle va baisser un petit peu, et ensuite pareil dans cette pièce là on va mettre une deuxième combinaison, on met une combinaison intégrale, on met des lunettes, un masque, une paire de gants. Moi dans mon secteur ça s'arrêtera là, mais mon secteur que j'en parlerai un petit peu plus tard, eux ils ont encore plus de choses à mettre, donc nous on est en classe C au niveau de la stérilité, eux ils sont en classe B, voilà, donc c'est encore un peu plus poussé. Donc une fois qu'on a passé tous ces sas, pareil, l'autre sas, il va rebaisser encore un peu. Et une fois qu'on a passé ces sas, et ben là, on peut travailler. Mais du coup, dans ces pièces, comme c'était tout à l'heure, en fait, on a très peu de lumière. On n'a que la lumière du plafond, là. Bon, bref, on a juste notre petite lumière. On a des fenêtres, mais on a des rideaux pour éviter qu'il fasse trop chaud dedans. Parce qu'il y a un taux à respecter au niveau de la température et de l'humidité aussi. On voilà, ne peut pas jouer avec. Et en fait, on est seul dans la salle. On est tout seul. Il n'y a personne avec nous. On travaille vraiment... faut éviter de bouger le plus de particules possible. Même nous, il faut qu'on fasse le moins de pas possible dans la salle pour éviter de... éventuellement, la petite poussière par terre décide de monter sur la paillasse. Hein. C'est vraiment... faudrait vraiment avoir pas de chance, mais bon. Les salles sont nettoyées tous les jours, hein. C'est pas un souci, mais on sait jamais. Donc c'est pour ça qu'on travaille seul aussi. C'est pareil, quand on est... forcément, quand on est plusieurs, quand on est deux notamment, on a tendance à parler. Donc là c'est pareil, même si on a un masque, voilà, il y a toujours un risque aussi de contamination de ce côté-là. Donc on travaille seul, mais par contre on a quand même un téléphone dans notre salle pour pouvoir parler avec le rez-de-chaussée si jamais on a un problème. Si on manque de matériel, si la poche elle a un problème, s'il y a un problème d'identité ou si la poche elle est bizarre, enfin voilà. On peut toujours communiquer avec l'extérieur, mais faut pas être claustro aussi, parce que du coup la pièce n'est pas non plus immense. Mais faut pas être claustro, faut pas avoir peur d'être seul, de travailler seul, parce que du coup il y a que nous, le bruit du PSM, donc la hotte, et c'est tout. Il y a que ça. Donc faut vraiment. Mais bon, après, vu ce qu'on fait, faut vraiment être concentré. Donc faut pas avoir trop de stimulation extérieure, quoi. Donc c'est nécessaire, vraiment, faut rester focus sur ce qu'on fait, parce que mine de rien, on a quelque chose de très précieux dans les mains et on va pas reprélever le patient tous les jours, quoi. Donc, contrairement à un don du sang, on a pas mal de donneurs, donc ça c'est cool, même si on en a jamais assez. Mais bon, voilà, une poche de cellules souches, une poche de moelle, un sang de cordon, c'est précieux, donc faut pas qu'on se foire, voilà.
Oui, même si tu travailles seule à ce moment-là, t'es plutôt concentrée sur ce que tu fais. Oui, du coup, c'est peut-être moins pesant d'être toute seule.
Bah, c'est moins pesant et moi, personnellement, c'est mieux parce que il y en a qui arrivent très bien à se concentrer à plusieurs. Moi, j'ai un peu de mal. Faut que je sois dans le, pas dans le silence, hein, mais il faut que je sois seule pour travailler, en tout cas pour faire ce genre de choses. Ouais. Dans les labos précédents, c'était totalement différent parce que déjà, les choses n'étaient pas pareilles. Mais j'avais mes collègues avec moi, il y avait énormément de bruit au niveau des machines aussi. Donc là, c'est un atmosphère totalement différent. On avait des tubes. Je vais pas dire que c'est moins précieux, mais c'était moins grave, en fait. Mais c'est clair que là, si il y a un problème avec la poche, que la poche se perce, ou que, je sais pas, qu'elle se contamine par X ou Y raison, ou qu'elle est déjà contaminée, etc., bah, on se pose des questions, quoi. On se dit, est-ce que c'est moi? Est-ce que c'était avant? Est-ce que j'ai fait quelque chose qu'il fallait pas dans la salle? Donc c'est pour ça qu'il faut rester vraiment hyper concentré, quoi.
Et tu travailles combien de temps en tenue comme ça
Alors moi, mes techniques sont pas très longues. Le grand max, ça va être vraiment 2h30-3h. Donc ça va, c'est pas non plus le plus long. Mes collègues, par contre, qui travaillent donc en recherche, en MTI, donc j'en parlerai un petit peu plus tard, eux, ils font des bonnes journées. Parce que là, c'est beaucoup plus long, les techniques sont plus longues. Par contre, ils sont plusieurs, eux, ils sont deux ou trois. C'est pas le même labo aussi. On a vraiment nos labos dédiés. Moi, j'ai vraiment le côté thérapie cellulaire et ils ont vraiment le côté recherche. Et eux, par contre, ça peut être très très long. Ouais. Ouais. Quand ils ont des grosses productions, ça peut être 4h matin, 4h après-midi, parfois plus, quoi. Donc, pareil, ils ont des protocoles pour faire des roulements, ils ont des protocoles pour changer leurs gants, pour rester stériles, etc. Donc, et eux, ils ont des contrôles d'environnement avec des géloses aussi, que nous, on n'a pas en thérapie cellulaire. Mais eux, ils sont obligés. Parce que c'est la classe B, et la classe B, c'est plus strict.
Ok. Donc, et du coup, j'imagine que t'as une classe A.
Bah, alors, la classe A, ça va être le PSM, justement. Donc, le PSM, c'est une énorme hotte que tout le monde peut connaître dans tous les labos. Et en fait, à l'intérieur, il y a un système fluidique qui fait que il y a de l'air qui va arriver du dessus, qui va filtrer par-dessous et qui va repartir. Enfin, il y a tout un chemin. Et ça, c'est une classe A. En tout cas, chez nous, il n'y a pas plus stérile. Si on a un problème, on passe au PSM. Et là, au moins, on n'aura pas de problème de contamination ou pas d'évolution de contamination. On peut pas, il n'y a pas plus propre que le PSM.
J'ai fait un stage en oncopédiatrique et on préparait les chimios sous hôte. Alors, est-ce que ouais. C'est peut-être la même
chose? Est-ce que elle était... Ça peut y ressembler, mais après, il y a des... Est-ce qu'il y avait une vitre
oui,
devant?
Oui, j'avais une ouais. vitre et je manipulais, je sais plus comment j'étais habillée, mais j'imagine que j'avais des gants stériles, ouais. Masque Charlotte et je manipulais là-dessous.
Bah, du coup, oui. Okay. S'il y a une vitre, en fait, oui, ça fait, c'est un PSM. S'il n'y a pas de vitre, c'est juste une hotte classique de labo. Ouais. Mais quand t'as la petite vitre et que, du coup, nous, quand on part, on ferme cette petite vitre. Et du coup, en fait, il reste à l'intérieur, on nettoie et ça reste stérile à l'intérieur.
En quoi ressemble, du coup, ta journée type, si tu pouvais la décrire? Je sais qu'on a toutes des missions différentes ouais. et que les journées ne se ressemblent pas forcément, mais en gros, qu'est-ce ouais. que tu fais la journée?
Du coup, les journées type, c'est un peu des horaires de bureau, en fait. Déjà, on ne travaille pas le week-end, donc ça, c'est un gros avantage, surtout quand on a un enfant. Et c'était aussi ce que je recherchais par rapport à mes labos précédents, parce que je travaillais les week-ends, et moi, j'arrivais plus, en fait, c'était compliqué, je voyais plus mon compagnon, etc. Donc c'était, pour moi, c'était une des choses les plus importantes. Donc là, typiquement, on travaillait pas les week-ends, pas les jours fériés. Vraiment, exception, s'il y a un problème au niveau d'un transport de poche, mais ça, c'est vraiment très exceptionnel, on peut venir un samedi ou un jour férié, mais bon. Après, c'est sur la base du volontariat, il y a personne qui est forcé. Et au niveau des horaires, ça va être 8h30, 17h30. Vraiment le basique du basique. Et en fait, c'est logique parce que on est totalement dépendant des médecins au niveau des tout ce qui est oncologie, cardiologie, etc. Bah, en fait, c'est la journée, quoi. Tout ce qui est greffe, ça va être que la journée parce qu'il faut que le patient soit surveillé. Et la journée, c'est là où il y a le plus de monde. Et du coup, on a un programme avec eux. Ma responsable, elle est louée à l'EFS, on va dire, parce qu'elle est médecin de base de CHU. Et elle travaille à l'EFS, pour l'EFS, avec l'EFS. Et du coup, c'est elle qui va faire les échanges avec les médecins et c'est elle qui va nous donner notre planning, en fait. Mais en gros, c'est ça les horaires. 8h30, 17h30, pas le week-end, pas le jour férié. Et franchement, c'est trop bien, quoi. je vais pas le cacher, franchement, c'est vraiment trop bien. Après, le rythme, même si on a ces horaires-là, est vraiment totalement aléatoire. Totalement dépendant des plannings des médecins, ce que j'ai dit tout à l'heure, est vraiment très aléatoire. Parce que du coup, je le disais un petit peu avant, des fois, on va programmer une greffe et... la veille ou l'avant-veille, quand le receveur va arriver, on va nous dire « Ah bah non, du coup, on a commencé le conditionnement, mais il y a un problème, le receveur, il n'est pas apte. » Du coup, bah, on arrête tout. Le donneur n'est pas prélevé. Et bah, le dossier, il est mis en stand-by jusqu'à ce que le patient puisse être de nouveau apte. Ça arrive assez souvent, mine de rien. Donc, soit il a un problème au niveau de son traitement, ou alors il est malade, ou parfois même il est décédé. Ça peut arriver aussi, hein, malheureusement. Donc non, c'est très aléatoire. On n'a jamais un jour, en fait, qui se ressemble par rapport à un autre. Donc, mine de rien, c'est pas mal, parce que ça, c'est quand même tout le temps les mêmes gestes, finalement. Le matin, on arrive, on check le planning, on voit ce qu'on a à faire, même si bah, la veille, on regarde un peu, mais il y a des fois, ça change. Donc, c'est vraiment très, très aléatoire. Il n'y a jamais un jour qui se ressemble, vraiment. Et après, de manière générale, bah, le basique du basique, c'est les vacances d'été et Noël, c'est hyper calme. Parce que bah, les médecins sont en vacances. Du coup, bah, c'est calme. Donc, c'est là qu'on va commencer à faire beaucoup plus de paperasse. Donc, on a quand même beaucoup de qualité. Spoiler alert, l'EFS, c'est une très vieille enseigne. Du coup, ils sont pas très très modernes. Ils ont encore beaucoup beaucoup de paperasse, mais ils le savent. Hein. Et même eux, ils disent, mais c'est pas possible, on a trop de papier, quoi. Ils ont un peu du mal à vouloir se moderniser de ce côté-là. C'est dommage parce qu'il existe des logiciels vraiment très bien, mais bon, ils ont un peu du mal à lâcher leur papier. Donc, quand on a ces périodes de calme, bah, on a quand même du boulot parce qu'on en profite justement pour faire de la paperasse, de la qualité, mettre tout à jour, donc ça, c'est un peu les rythmes basiques quoi, de mon EFS. Et tout à l'heure, je parlais qu'on avait deux structures. Donc moi je suis en TC, en thérapie cellulaire, et je suis à 100% en thérapie cellulaire. Je ne fais rien d'autre. Ma supérieure avait besoin de quelqu'un pour l'aider, parce qu'en fait, dans le service, les techs, donc on est 7 techs, et en fait, les 6 autres, mes 6 camarades, eux, ils sont polyvalents. Donc en fait, ils ont été formés sur les deux. Donc ils font à la fois du MTI, à la fois de la thérapie cellulaire. Et en fait, quand il y a une production de MTI, qui est donc de la recherche cellulaire, ils sont priorités là-dessus. Parce que c'est le plus important, en fait. Et du coup, bah, ma supérieure, elle se retrouvait coincée parce qu'elle avait parfois personne pour faire ce que je fais, quoi. Donc elle avait vraiment besoin de quelqu'un à 100%, et c'est comme ça que j'ai été recrutée. Et du coup, moi, je ne rentre jamais en classe B. Jamais, jamais, j'ai pas du tout été formée pour ça. Pas que ça me dise pas de le faire, mais en fait, il y a tellement de choses à faire en thérapie cellulaire que... Je comprends que mes collègues, en fait, parfois, ils pétaient des câbles parce que bah, c'est lourd, quoi. De faire à la fois de la recherche et de la fois de la thérapie cellulaire, c'est un peu... Pour l'esprit, parfois, c'est pas facile, quoi. Parce qu'il faut savoir jongler sur les deux. C'est pas forcément la même technique sur les deux aussi. Donc, parfois, il faut se souvenir. Heureusement, on a des très bonnes procédures qui sont bien faites. Donc ça, c'est cool. Mais pareil, les procédures, bah, faut les revoir parfois, hein, parce que bah, elles sont faites il y a longtemps, ou alors nous on arrive, on a forcément d'autres idées, vu que là maintenant en plus on a eu un turnover quand je suis arrivée, pas mal de personnes qui sont parties, et d'autres qui sont arrivées forcément, donc bah, ils ont des nouvelles idées, c'est des jeunes, plus jeunes que moi, donc ils ont des idées que nous on n'a pas forcément aussi. Donc là, il y a pas mal de paperasses qui sont refaites et remises à jour, parce que justement ils ont plein d'idées, et ça c'est cool quoi. Donc voilà un peu mes journées types, et... Moi, je trouve ça beaucoup plus simple, en fait, d'être toute seule à gérer les dossiers de thérapie cellulaire, alors que mes collègues, ils sont du coup 6 à faire tous les dossiers de recherche. Et parfois, je me dis, waouh, quand ils font leur DDL, chez nous, on appelle ça comme ça, c'est dossier de l'eau, en fait. Okay. Et dossier de l'eau, en fait, c'est le protocole qu'on a, qu'on suit et qu'on indique ce qu'on fait, en fait, pendant les techniques. Donc, nos DDL sont très bien faits. En thérapie cellulaire, ça dure 5 minutes. C'est pas long à faire, parce que du coup, on coche tout déjà, tout est déjà fait informatiquement. Ça, c'est bien, ils ont changé. Tout est fait informatiquement, et c'est grâce justement à un de mes collègues que c'est informatique, parce qu'il a dit, bah, ce serait bien qu'on fasse ça, quoi. Donc, j'ai juste à cocher les cases, dire à quelle heure j'ai fait ci, à quelle heure j'ai fait ça, qu'est-ce qui s'est passé, machin. En 5 minutes, c'est plié. Eux, vu qu'ils ont pas d'ordinateur en classe B, parce que c'est interdit, en fait, tout leur pareil, tout leur matériel, ils le montent à la minute, et bah, en fait, ils doivent tout noter sur des feuilles spéciales pour salle blanche. En fait, ils notent les choses dessus et ils ont un stylo, un seul stylo qui est rentré dans la salle et qui ne bouge pas de la salle. Et c'est la seule chose qui est autorisée parce que bah ils n'ont pas le droit d'avoir de matos. Donc en fait, quand ils sortent, il faut qu'ils se souviennent de ce qui s'est passé, à quelle heure ils ont fait ci, ça, ça, machin. Donc eux, quand ils font un dossier de l'eau, ça dure 1 heure, 2 heures. C'est super long, quoi. Et là, je me dis, mais heureusement que moi, je suis toute seule et que je me souvienne de tout, parce que quand ils sont 3, bah, il faut se souvenir de ce que tout le monde a fait. Donc ouais, ça peut être un peu... Et là, pour le coup, bah, dans ce métier, en fait, moi, je le trouve incroyable parce que j'ai vraiment l'impression d'être utile, quoi. Pour le patient, c'est... Là, pour le coup, c'est un patient. C'est pas un client. Là, je me sens vraiment... J'ai l'impression d'être, en fait, d'être un super-héros en combinaison blanche, quoi. Parce que du coup, je trouve ça gratifiant de se dire qu'on va potentiellement sauver quelqu'un. Pas le sauver, peut-être parfois il sort pas d'aplasie, donc ça peut être plus long, mais on se dit potentiellement, ce qu'on fait, ça les aide, et moi je dors bien la nuit, quoi. Grâce à ça, je dors mieux. Donc là, pour le coup, ouais, je me revois petite fille, et je me dis, j'ai trouvé ce que je voulais, quelque chose d'utile. Je voulais vraiment faire un truc bien, qui me plaît, et qui me permet de me sentir utile, en fait. Vétérinaire, ça aurait été très bien aussi, hein, mais c'était un peu trop long. Donc voilà.
Du coup, tu en as peut-être déjà un petit peu parlé, mais le lien que tu as avec les patients, où ça fait très métier de l'ombre, j'ai l'impression, de ce que tu
complètement. Que tu dis. Ouais, complètement. En fait, on ne voit jamais les patients. On voit juste leur nom, prénom, date de naissance, et parfois même pas, on a juste un numéro anonyme. Souvent pour les donneurs, on a des numéros anonymes, parce que c'est un donneur qui vient d'un autre pays. On a à peu près 80% de nos greffes qui viennent d'un autre pays. Parce qu'en France, on en a, mais il faut matcher, en fait. C'est ça, le truc, c'est qu'il faut juste matcher. Donc, c'est pour ça qu'on a beaucoup de donneurs étrangers. On a donc souvent des numéros anonymes. On appelle chez nous des grids, ça s'appelle comme ça. Et on a juste ça, une date de naissance. Et on a juste après le nom du receveur, parce que ils sont au CHU, les receveurs. CHU qui est proche de chez nous, CHU qui est à quelques kilomètres. Et c'est tout ce qu'on a. Mais après, les patients, on les voit jamais. On les voit jamais. On sait pas... Parfois, on a des informations grâce au médecin, en sachant s'il va bien. Ils font des comptes rendus, du coup, à ma supérieure. Et parfois, il y en a qui sortent d'aplasie, donc ça, c'est chouette. Ça veut dire que les dossiers, si par exemple, ils ont des poches réservées pour eux depuis X années, parce qu'on peut garder les poches très longtemps en azote, et en fait, on peut les mettre de côté, vu qu'il est sorti d'aplasie, en fait, il n'en a potentiellement plus besoin. Donc, on les met de côté, jusqu'à ce qu'on apprenne son décès, mais on les met dans des cuves spéciales pour... libérer un peu de place pour les autres, parce que les cuves, on en a beaucoup et elles sont toutes pleines. Vraiment, on a des centaines et des centaines de poches. Donc c'est pour ça qu'on est content d'en sortir de temps en temps pour faire un petit peu de place.
Oui. Et du coup, physiquement, les cuves, elles sont là-bas où toi tu travailles.
Ouais. Okay. Ouais. On a une salle dédiée, une salle d'azote liquide. Pareil, on a des équipements particuliers pour y rentrer. Toute une formation aussi pour travailler l'azote, parce que c'est dangereux. Pas oublier que ça reste dangereux. Donc, on a des formations pour ça.
Pareil, on commençait déjà un petit peu à en parler, mais avec quel professionnel tu travailles et tu gravites ? T'as tes collègues ?
J'ai mes collègues et du coup, j'ai les médecins. Les médecins qui sont dans les hôpitaux. Après, eux, ils vont vraiment principalement parler avec ma supérieure, qui est du coup, elle aussi, médecin. Mais après, ça va être ma supérieure, mes collègues et les médecins des CHU, parce que du coup, il y en a plusieurs. Mais ça va être que ça. Okay. Moi, j'ai pas...
Et au niveau de tes responsabilités en tant que technicienne de laboratoire, qu'est-ce que tu dirais ?
Alors, là où je suis actuellement, il faut de la rigueur, de la précision, du calme, et ça va être un peu stupide, mais de l'hygiène. Parce que, du coup, forcément, si on rentre dans une atmosphère stérile, si nous-mêmes, on n'est pas propre, ça va pas, quoi. Et c'est une... c'est drôle, mais quand j'ai passé mon entretien... C'est exactement ce que m'a dit ma supérieure, du coup, qui est ma chef maintenant. Elle m'avait dit, il faut que vous soyez hygiénique, quoi. Oui, d'accord. Alors, ça paraît logique, dit comme ça, mais en fait, elle m'a dit, c'est arrivé très souvent qu'elle ait des entretiens où les personnes sentaient pas bon, quoi. Donc, après, sentir bon et être propre, c'est deux choses différentes, mais on le sait tout de suite quand une personne n'est pas très... Voilà. Donc ça, c'est la base même pour bien travailler là où je suis. Après, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, mais niveau sécurité, en fait, on a beaucoup de matériel. Donc pour la salle azote, par exemple, on a des PTI. Donc en fait, ce sont des petits appareils qu'on met sur nous, qui s'appellent des protections de travailleurs isolés. Donc en fait, on est obligé d'avoir ça. Et un oxygénomètre aussi. Parce que du coup, l'azote est plus dangereux. Enfin, forcément, il est dangereux par rapport à l'oxygène. Même si on a beaucoup moins dans l'air, si on en inhale trop, on peut faire des malaises. Du coup, on est obligé d'avoir un oxygénomètre pour vérifier le taux autour de nous. Si jamais ça sonne, en fait, le taux d'azote est beaucoup plus élevé que le taux d'oxygène, et du coup, il faut qu'on sorte de la salle. Ça veut dire que potentiellement, il y a un problème de ventilation notamment, ou que la cuve d'azote elle a trop fait de vapeur, il peut y avoir des problèmes. Et du coup, le PTI, il est là pour, au cas où, justement, si on fait un malaise, que le service de sécurité soit prévenu et que du coup ça sonne dans les bureaux. Parce que quand on rentre en azote, on est souvent seul aussi pour x ou y raison, parce qu'on fait plein de trucs dans les salles azote. Et les bureaux, ils sont totalement à l'opposé de la salle. Et donc, quand on a un malaise, faut quand même que quelqu'un soit prévenu pour venir nous secourir éventuellement, ça serait sympa. Donc pareil, quand il y a quelqu'un qui fait un malaise, on a des protections à l'extérieur pour rentrer dans la salle, parce que s'il y a trop d'azote dans la salle, on peut pas rentrer comme ça. Donc la base, c'est d'abord on se protège et après on sauve la personne en question. Donc voilà, le PTI, il est là pour avoir cette sécurité justement, afin que si on est seul et qu'on tombe, que quelqu'un vienne voir ce qui se passe, quoi. Donc ça, c'est très important. On a aussi, forcément, quand on manipule l'azote, on a des gants spéciaux, on a des visières aussi, parce que quand on a de l'azote liquide, il peut y avoir des projections. Et on a aussi des blouses fermées, très important, et des chaussures de sécurité. Parce que c'est pareil, si on arrive avec une petite sandalette et qu'on se met de l'azote sur le pied, ça brûle légèrement. Donc, et encore légèrement, c'est un euphémisme, bien sûr. Donc voilà, on est obligé de porter ces ustensiles de sécurité. Après, quand on est en salle blanche, c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, on a tout un habillage à faire pour justement être bien en sécurité et surtout aussi protéger la poche en question, quoi. C'est très important. Donc la rigueur, c'est très important. L'hygiène, c'est très important. Et bien sûr, garder son calme quand on a des problèmes. Ça peut arriver d'avoir des soucis. Que ce soit en salle azote ou que ce soit à l'étage, ça arrive très rarement, heureusement. Mais ça peut arriver. Il faut connaître du coup les gestes, il faut savoir ce qu'il faut faire.
Et j'imagine que quand t'es enceinte, t'as facilité à pouvoir travailler avec tout ce matériel, toute cette façon de...
Alors, du coup, vu que j'étais enceinte il n'y a pas si longtemps, je vais pouvoir en parler. C'est pas si simple parce que quand on est en azote, ça va. Franchement, c'est pas gênant au niveau des protections. C'est au contraire, c'est mieux. Par contre, quand on doit soulever les couvercles des cuves azote, elles sont très très lourdes. Donc ça, on peut pas vraiment le faire. Les cuves sont assez proches les unes des autres, donc forcément passer, ça devient compliqué aussi. Donc en azote, ça va. Après, quand on est en technique en haut, c'est plus compliqué parce qu'il faut se changer. Et il y a des fois où on se change le matin et l'après-midi. Donc, on se déshabille en arrivant, on se réhabille en sortant, et l'après-midi est pareil. Donc ça peut être un peu fatigant, et après, il y a aussi le fait qu'on doit se baisser pour mettre les chaussons, on doit se baisser pour fermer les combinaisons. Donc en fait, on est beaucoup penché, beaucoup sollicité, et en fait, quand on est enceinte, c'est lourd. Donc moi, j'ai été arrêtée un mois plus tôt, parce que du coup, j'étais fatiguée à cause de ça. Donc il y a les protections. Ça, c'est pas un problème, c'est au contraire, il faut qu'on le dise assez rapidement, enfin, dès qu'on a les 3 mois, en gros, il faut le dire, parce que en salle sécu, j'en ai pas parlé de cette salle, mais on a une salle de contrôle qualité, j'en parlerai un petit peu après, et en fait, on a des produits aussi qui sont des produits chimiques qui sont...
C'est plutôt, c'est ça. Chose,
On doit faire attention à ça. Donc, quand on est enceinte, c'est écrit dans notre réglementation, faut pas tarder à le dire pour justement éviter d'être trop exposé à ce genre de produit et éviter tout problème, quoi. C'est important. Ouais. C'est important pour nous et c'est important pour le bébé, quoi. On est plutôt bien en sécurité. Ils font tout pour. Et en tout cas, dans mon service, ils sont beaucoup à l'écoute. Donc, quand on a un problème, on peut aller les voir. La porte est ouverte, on leur dit. Et moi, j'avais très peur de leur annoncer ma grossesse parce que j'avais pas encore signé mon CDI. Donc, j'avais très peur de ça et au final, ils m'ont fait signer mon CDI justement pour très rapidement parce que mon contrat est terminé. En septembre, ils m'ont fait signer justement la suite pour pas que j'ai de problème. Et normalement, je devais partir en novembre.
Okay.
Donc c'était vraiment très rapproché. Au final, je suis partie une semaine après ma signature. Mais c'était pas vraiment de mon fait. Hein. Là, j'avais pas trop le choix. C'était la santé de mon enfant qui était en jeu.
Pareil, t'en as déjà un peu parlé tout à l'heure, mais... On a souvent l'idée que voilà, travailler en laboratoire, comme tu disais au début, quand t'étais préleveuse, c'était beaucoup la même chose et tout. Qu'est-ce que tu répondrais à ça ?
Eh ben, c'est vrai. c'est vrai. Le métier de technicien, c'est vraiment très très répétitif. Faut pas se leurrer, hein. C'est pas comme dans les séries américaines, rien à voir. On fait les mêmes gestes au quotidien, vraiment. Et il existe même une maladie qui est connue chez nous pour ça, justement, qui s'appelle le trouble musculo-squelettique. C'est qu'en fait, comme on fait les mêmes gestes tout le temps, on souffre beaucoup de ça. Donc, je pense que tu connais aussi. Du coup, voilà. Mais par contre, en tout cas, dans mon service, tous les jours, il y a une surprise. Il se passe tout le temps qu'un truc. Donc, même si c'est répétitif, parce qu'en technique, à l'étage, oui, on doit tout le temps avoir les mêmes gestes. C'est important, justement, pour la rigueur, j'en parlais avant. C'est important. Mais par contre, on a toujours une surprise. Il se passe toujours quelque chose. Donc au final, on arrive le matin, on dit ok, on a le planning, on sait ce qu'on va faire, mais on sait pas vraiment ce qui va se passer. Donc il y a des fois ça se passe très bien, hein, c'est pas ça tout le temps, heureusement, mais des fois on se dit mais pourquoi ? Le truc le plus banal chez nous, ça va être le transporteur. Soit il va arriver en avance, c'est cool s'il arrive en avance, hein, mais, mais c'est pas souvent le cas. Du coup, quand il arrive en retard, bah, ça décale tout, et parfois on fait un peu plus d'heures parce que justement, il arrive en retard, donc bah, faut finir, le patient derrière il attend, donc il attend sa greffe, hein. Donc faut y aller, quoi. Après, ouais, en TC, je m'ennuie pas, quoi. Mais c'est vrai qu'en technique, et site périphérique, donc c'est site de prélèvement, c'est très répétitif, surtout les sites périphériques. Bon, après, en plateau technique, il y avait un peu plus de rebondissement quand même. En site périph, c'est tout le temps pareil. On arrive le matin, on enregistre les dossiers, on fait la prise de sang, on envoie le tube. On fait le dossier, on prélève le patient, on envoie le tube. En fait, c'est tout le temps pareil. On me dérobe, vraiment. Et c'est pas... Il y en a qui adorent ça. Moi, c'était pas mon truc. Donc il fallait que je parte de là, je suis partie. Mais après, le plateau technique, c'était un peu plus... ça bougeait beaucoup plus. Il n'y a pas un moment où j'avais mes fesses assises, hein, vraiment. C'était très compliqué. On avait beaucoup de machines, donc il fallait faire tout tourner. Le problème, c'est que en plateau technique, on est plus des techniciens de maintenance que des vrais techniciens de labo, quoi. Mais c'est pareil, il y a toujours un lot de surprises parce que la machine, quand elle tombe en panne, voilà. il fallait trouver la panne. Si on arrivait à la réparer, c'est tant mieux. Sinon, il fallait appeler le service soit Roche, Biomérieux, suivant le labo où on est. Et parfois, on arrivait à faire au téléphone avec lui. Et parfois, non. Donc quand c'est ça, il fallait qu'ils interviennent, mais souvent ils intervenaient le lendemain ou le surlendemain, donc la machine elle était out pendant plusieurs jours. Donc il fallait faire le boulot de tous les jours avec moins de machines, donc c'était très compliqué, on faisait beaucoup d'heures aussi. Parfois on passait des heures et des heures, parfois la journée, à chercher des tubes urgents qui étaient coincés dans des automates ou qui étaient perdus on ne sait où, enfin c'était un vrai calvaire, donc des journées comme ça, j'en voulais plus. C'était horrible. Donc oui, c'est un travail très très répétitif, ouais.
Oui, mais peut-être que du coup, tu perfectionnes ton geste.
Ah oui.
Au bout d'un moment, tu y seras perfectionné au maximum. Ah, tu pourras pas faire plus, mais je veux dire, tu...
Plus de ça, ce qui est chouette, c'est qu'on va plus vite, du coup. Parce qu'au tout début, quand on a été habilité, parce que le processus aussi, il est long, hein, l'habilitation. Quand on est habilité, on rentre seul en salle, et là, on se dit, ok, là, c'est le baptême, on y va. Mais en fait, on connaît pas le protocole par cœur. Du coup, on allume l'ordinateur, parce que nous, on a le droit à un ordinateur. On regarde le DDL, on se dit, ok, alors il faut que je fasse ça, 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 d'accord. J'arrive devant les placards, et là, je dis, ok, où est-ce que c'est rangé? Donc, on prend un peu plus de temps au début. Là, maintenant, même après mon congé mat que j'ai eu il y a pas longtemps, en un mois, la première fois que je suis montée, j'étais là, bon, alors, ok, il faut que je fasse ça, ça, ça. Je savais déjà, en fait, je savais déjà tout. J'avais rien oublié, donc ça, c'est cool, ça a été plus rapide, ma chef était très contente. Plus tu fais, tu retiens. Et en fait, avant, je faisais des techniques, je mettais peut-être 2 heures, maintenant je mets 1h30. Parce qu'en fait, tu le sais, t'arrives en salle, t'allumes ça, 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 tu dis ok, pendant que lui il chauffe, moi je vais faire ça. Enfin, voilà, donc tu connais le truc par cœur finalement. Donc ouais, c'est répétitif, mais c'est trop bien. Comment tu connais, c'est ce qu'il te doit faire, quoi.
Oui, bah oui, voilà. La répétition, c'est pas que négatif, parce qu'il y a des choses quand même...
Ouais, non, c'est chouette. Mais oui, c'est une réalité, c'est très répétitif ce métier.
Est-ce que tu as des aspects que tu trouves particulièrement passionnants ou au contraire difficiles du coup dans ton pays?
Alors là où je suis actuellement, en fait, moi je trouve ça hyper fascinant. J'en apprends en fait tous les jours. Et j'ai même des formations tous les ans pour me perfectionner sur certaines techniques. Ou sur carrément sur des recherches, il y a beaucoup de congrès aussi sur la thérapie cellulaire, sur la recherche médicamenteuse, la recherche cellulaire, etc. Donc tout ça, j'ai le droit à y aller. Donc tous les ans, on a un entretien avec notre supérieur et en fait, on demande s'il est possible de nous inscrire pour telle ou telle formation ou tel congrès ou que sais-je encore. Du coup, il le note et en fait, au bout de... En général, on sait à la rentrée de septembre si oui ou non ça a été accepté. Donc c'est hyper fascinant parce qu'on en apprend tout le temps en fait, et comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas un truc qui se ressemble, et c'est beaucoup plus intéressant de faire, d'apprendre, moi je trouve ça très enrichissant, vraiment. C'est... Après, si je devais trouver un côté un peu difficile, je dirais que c'est la peur de contaminer une poche, parce qu'on a toujours, vu que c'est quelque chose de très manuel, on a toujours cette peur en fait, en tout cas c'est la mienne, hein. Je sais pas si c'est celle des autres, mais heureusement c'est très rare, mais très 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 rare. Moi, personnellement, j'ai toujours peur de rentrer une poche dans une salle blanche et de me dire, je l'ai peut-être mal décontaminée en rentrant. Donc ça se trouve, je la rentre et il y a une bactérie qui va contaminer ma salle. Enfin, on devient un peu parano hein, avec ce travail. Même quand on est en bas, moi je suis tout le temps en train de tout décontaminer dans les salles de microbiologie parce que j'ai toujours peur qu'il y ait un truc qui pousse ou quoi. Enfin, c'est un calvaire. Même chez moi, c'est pareil, je nettoie tout. Mais du coup, je dirais que c'est le côté le plus dur, c'est ça, c'est de potentiellement contaminer quelque chose. Parce que bah, c'est pas forcément de notre fait, en fait. On n'a pas envie de contaminer une poche, hein, c'est pas notre délire. Quand ça arrive, en plus, c'est le grand bas de combat. Parce que le patient, lui, il a déjà été transfusé. Il a déjà eu sa greffe, donc quand on apprend que c'est positif, c'est au bout de 72 heures parfois. Donc bah, après, on le sait, quand le patient il a fait une réaction tout de suite, il y a eu de la fièvre et tout, on se dit ok, il y a un truc qui s'est passé. Et là, quand on reçoit la bactério, on se dit ouais, bon, ok, je comprends pourquoi. Et quand c'est comme ça, le service de Citaférèse, eux, ils donnent un spectre large. Et quand ils ont la bactérie, ils se disent ok, bah, on va cibler, on va donner le bon antibiotique cette fois. Pour être sûr que le patient il a rien, parce qu'il est très fragile le patient. Donc ça c'est vraiment le côté le plus dur, pour moi en tout cas, parce que j'ai trop peur de contaminer, donc je suis tout en train de tout nettoyer à l'alcool. Tout ce que je mets sous le PSM, je décontamine à fond, sous le PSM je décontamine encore, enfin je suis un peu... Mais c'est important parce qu'on a quand même la vie de notre patient quoi, donc si on lui transfuse un... je sais pas, un champignon, alors, je sais pas comment il serait rentré, hein, mais si on transfuse un champignon mortel, bah il meurt quoi, donc le pauvre, il est pas là pour ça en plus.
Pareil, on a déjà un peu parlé du Covid, mais du coup pendant la crise on a beaucoup entendu parler des tests PCR et du rôle du coup bah, des laboratoires. Comment est-ce que tu as vécu cette période et du coup est-ce que ça a changé dans ton quotidien?
Alors bah du coup pendant le Covid, moi j'ai connu deux labos différents. Donc au premier confinement, je travaillais du coup en labo de ville, je faisais les prélèvements. Donc j'ai parlé un petit peu des prélèvements sanguins et nasaux. Et je vais pas le cacher, c'était un véritable enfer. Parce que, en fait, bah, comme mes collègues infirmières dans les hôpitaux, on comptait pas nos heures. Vraiment, c'était... nous, on faisait du 6h, 21h, si on dépassait pas. On faisait du coup les prélèvements sanguins, on faisait les prélèvements de Covid, on faisait le secrétariat, on faisait le standard aussi parce que beaucoup d'appels. On devait réunir tous les documents parce que là où moi j'étais, on faisait une sorte de drive Covid. En fait, on prélevait les gens dans les voitures pour éviter de potentiellement contaminer les labos. Donc c'est pareil, on était dehors avec une combinaison d'astronautes quoi. Enfin, c'était un peu poussé, mais bon, on savait pas à quoi on s'attendait, donc on connaissait pas du tout ce virus. Donc j'ai fait ça aussi. C'était très drôle. J'ai gardé des photos de ça, d'ailleurs. Quand je retombe dessus, je suis là, oui, d'accord. Bah, je préfère ce que je fais maintenant, quand même. Donc, voilà, je récupérais tous les dossiers qu'il fallait préparer en amont pour pouvoir justement prélever ses patients sans récupérer de papier. Donc, il y avait ça. Et puis, le soir, quand le labo était fermé, bah, en fait, on n'avait pas fini la journée parce qu'il fallait qu'on fasse le ménage dans les locaux parce qu'on n'avait plus de société de ménage. Donc, si on veut un endroit propre pour accueillir les patients... Si on veut une salle propre, des salles propres justement pour éviter les contaminations, parce que bah il n'y avait pas que le Covid hein, quand même, il y avait quand même la grippe, tous les virus, les gastro, les machins, bah bon, les gens quand ils viennent, ok ils viennent faire des prises de sang, mais on sait jamais ce qu'ils ont quoi. Donc il fallait toujours tout nettoyer, et c'est bête hein, mais il faut nettoyer les toilettes aussi, enfin le comptoir, fallait tout le temps nettoyer, enfin du coup bah le soir on restait, le labo fermait à 19h, mais on restait pour faire le ménage derrière. Donc des fois ouais, c'était compliqué, et il y a même des fois on n'arrivait pas à faire une pause de midi quoi. J'ai pas envie de faire mon caliméro parce que bah, ça a été une période très compliquée pour tous les personnels de santé. Mais du coup, dans mon cas, ouais, c'était pas une période facile. Je ne regrette pas du tout cette période. J'ai pas trop envie d'y retourner. Et en fait, à l'issue de ça, bah, déjà, on n'est pas très bien, mais on se dit, ok, on fait ça pour la société, on fait ça bien. C'est un peu le syndrome de Socrate, quoi. Parce qu'on se dit, ok, on est là pour eux, quoi. Si on a choisi un peu ce métier, c'est aussi pour ça. On n'est pas médecin, mais bon, on est quand même là pour ça. Et en fait, j'ai eu un revirement à un moment donné parce que je suis tombée malade. Du coup, je l'ai chopé, le Covid, comme beaucoup de personnes. Et comme beaucoup de techniciens et d'infirmières et tout ça, j'ai été travailler. Mais du coup, c'est vrai que travailler avec plus de 40 de fièvre, avec un corps qui te tient pas, une énergie proche d'un flambi, c'est très compliqué. Et puis du coup, je tremblais beaucoup. En fait, comme j'avais de la fièvre, mon corps, il tremblait. Et pour faire les prises de sang, c'était un enfer. C'était très compliqué. Autant les prélèvements nasaux, je me dis, bon, le patient, je lui vais dans le nez, ça va dans le nez, quoi. Mais la prise de sang, c'était chaud. Hein. Vraiment, c'était très compliqué. Donc, quand j'ai eu ça, je sais pas ce qui m'est passé par la tête. Je me suis dit, mais c'est pas aussi psychologiquement, en fait, je vais pas tenir. Et je me suis dit, il faut que je parte. Je savais très bien que je partais dans un autre labo parce que que je resterais, pardon, dans ce domaine, mais je voulais plus être dans un labo de ville parce que je savais très bien que le rythme allait être le même. Et c'est comme ça que j'ai atterri, en fait, dans le plateau technique pendant le deuxième confinement. Okay. Du coup, j'ai réussi à partir de ce labo-là et à me cacher là-bas. Et du coup, en fait, là, j'étais un peu à l'écart de ça. Je me suis un peu préservée parce qu'en fait, on m'avait mis dans le secteur de biochimie. Du coup, je ne touchais pas du tout aux tests PCR. Je ne touchais plus à ça. Donc moi, nous, on avait juste les prélèvements sanguins. On en avait quand même beaucoup, hein, faut pas... Hein. Tout ce qui était PCR, Covid, nous, enfin, moi, en tout cas, j'y étais plus. Par contre, je voyais mes collègues. Et eux, il y avait des roulements de jour et de nuit. Donc, ils étaient assez nombreux pour voir les roulements. Il y avait beaucoup de machines aussi. Il y avait peut-être 4 machines qui roulaient à plein temps. Donc, des fois, quand on a une machine par une qui tombe en panne, donc là, je parle vraiment que des PCR. Quand il y avait une machine qui tombait en panne, bah, forcément, il fallait réparer, ou alors, PVSAV, machin, bah, c'était un peu compliqué. Donc, on prenait du retard, enfin, ils prenaient du retard, pardon, parce que, il y avait une machine en moins, et, bah, c'était long, parce que le temps de... Alors, je me souviens plus du terme exact, mais de ce qu'ils m'avaient raconté, il fallait, pas synthétiser, mais il fallait concentrer le petit prélèvement, et ça mettait 4 heures. Rien que ça, c'était long. Donc ensuite, il fallait que la machine fasse le prélèvement, machin, qu'elle analyse. Enfin, ça durait une plombe. Un prélèvement, ça durait, je crois, 6 heures. 6 ou 7 heures. Donc c'est très très long. Donc quand les gens, ils nous appelaient le matin, l'après-midi, après avoir fait le prélèvement le matin, bah non, c'est pas prêt en fait. Comment vous dire? Donc c'était un peu, ouais. Donc de ce côté-là, j'étais un peu préservée. Après, moi je dirais que cette période, en fait, ça m'a beaucoup ouvert les yeux sur ce que je voulais vraiment faire. Quand j'étais en labo de ville et après en plateau technique, je me suis rendu compte que je voulais pas en fait, je voulais plus faire ça, je voulais vraiment être utile parce que là en fait, j'avais pas vraiment le sentiment d'être utile parce que, comment dire ça, les gens ils sont devenus très, je vais pas dire méchants, mais pas loin quoi. C'était tout de suite et en fait du coup ça me faisait beaucoup culpabiliser, je me disais mais en fait on va pas assez vite, comment faire pour aller plus vite, mais en fait c'était pas notre fait finalement parce que c'était l'automate qui était comme ça. Moi, ça m'a vraiment permis de me dire « Ok, si je veux plus faire ça, je veux faire autre chose, faut que je trouve. » Ça a mis du temps, mais j'ai fini par trouver. Mais voilà, heureusement que ça existe, hein, d'ailleurs, ce genre d'endroit. Mais ouais, ça m'a permis vraiment d'ouvrir les yeux. Après, durant cette période, on a beaucoup entendu dire... on entendait souvent les gens nous dire « Oh, du coup, ça va, c'est bon, t'as eu des primes, t'as pas à te plaindre et tout. » Bah oui, j'ai eu des primes, mais en même temps, le boulot, il était, comment dire, il justifiait le fait d'avoir quelque chose. Mais nous, en fait, au labo, ce qu'on voulait, c'était pas des primes, c'était une augmentation. Parce que les primes, c'est bien mignon sur l'instant T. Mais quand on arrive à la retraite, la prime, elle compte pas. Donc oui, on a eu des primes, on a eu un joli chèque, c'est vrai, on va pas le cacher. Tous les techniciens le diront, toutes les infirmières peut-être le diront aussi. Mais on s'en est pas mis plein les poches. C'est pas nous. Faut pas taper sur les gens comme ça, faut arrêter de taper sur les employés. C'est pas les employés qui ont le plus d'argent, c'est clairement les biologistes, hein. Tout le monde le sait, hein. c'est un secret. Mais clairement, quand j'entendais les gens me dire « Oui, bah ça va, c'est bon, tu fais 6h21, mais c'est pas grave, t'as de l'argent qui va derrière. » Bah oui, mais en fait, la santé physique et mentale, c'est plus important que de l'argent. Donc ça m'a permis vraiment de me dire que je voulais plus faire ça, et même s'ils me donnaient des primes, en fait j'en avais rien à faire de leurs primes. Moi ce que je voulais c'était me sentir bien, et là c'était pas le cas, la crise du Covid c'était très compliqué pour tout le monde, hein. Que ce soit pour les gens confinés chez eux, il y en a qui l'ont très bien vécu, tant mieux pour eux, parce qu'il y en a pas beaucoup, mais tant mieux pour eux, mais pour les personnels de santé, la crise Covid, moi je connais personne qui va me dire qu'il l'a bien vécu.
Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui aimerait faire ton travail avec tout ce que tu nous as dit ?
Faut être passionné, parce que c'est pas forcément un métier facile. Faut vraiment aimer en fait ce qu'on fait. C'est vraiment un métier passion. C'est un métier qui peut être très très bien, vraiment merveilleux. Mais par contre, faut bien trouver sa branche. Parce que comme je disais au tout début, il y a plusieurs branches de techniciens de labo. Il y en a qui vont être dans l'alimentaire, d'autres dans l'environnement, d'autres dans le médical. Il y a vraiment plusieurs branches. Il existe plusieurs diplômes, du coup, en conséquence de ça. Donc, il faut vraiment bien se renseigner. Si on veut faire de la technique dans les labos, il faut vraiment se dire, ok, moi, j'aimerais faire ça. Mais alors, du coup, ça va être quel diplôme plus potentiel ? Après, moi, par exemple, j'ai fait un diplôme d'analyse biologie médicale. Si je voulais partir en environnemental, ça aurait été compliqué. Je peux le faire, Parce que quand c'est pareil, ils sont à la dèche. Hein. Ils cherchent toujours des techniciens, quel que soit le labo, ils vont chercher. Mais par contre, ma formation va être plus longue. Parce qu'on n'apprend pas forcément la même microbiologie, c'est pas la même. Environnementale, alimentaire et humaine, enfin biologique, c'est pas du tout les mêmes qu'on va avoir. Les mêmes bactéries, les mêmes virus, etc. Donc c'est pas tout à fait la même chose, donc j'aurais dû faire des formations un peu plus. Après, j'ai atterri en thérapie cellulaire, j'y connaissais rien. Donc en fait, j'étais formée sur le tas. Donc maintenant, beaucoup de labos font des formations sur le tas. Il y en a même parfois qui vont faire des VAE pour avoir le diplôme, ça existe encore. Ou d'autres même qui vont vouloir faire une VAE d'un diplôme d'ingé, parce qu'ils sont passés cadre, mais ils sont partis de tout en bas, ils sont montés, et du coup ils se disent, j'ai envie de passer mon diplôme d'ingé, parce qu'au moins j'aurai la reconnaissance si jamais je change de boulot en fait. Ouais, il faut bien choisir sa branche, mais c'est pas inévitable. Il n'y a rien qui est figé dans le marbre et tout, enfin on peut évoluer ailleurs, on peut aller ailleurs, mais voilà, ça reste un métier où il faut vraiment aimer la technique, ça c'est sûr. Les gestes répétitifs, attention, préservez-vous, parce que du coup, nous, ils nous rabâchent avec ça au quotidien, mais c'est normal parce qu'on fait beaucoup, beaucoup de répétitions, et parfois on soulève au-dessus des épaules des produits ou des boîtes, et du coup, forcément, ça fait mal aux muscles. Donc ils nous disent tout le temps, préservez-vous, essayez aussi de travailler le plus souvent assis, pour ne pas être tout le temps penché. Moi, je sais que j'ai ce problème, j'ai travaillé énormément debout dans mes anciens boulots, et du coup, j'ai ce fameux problème de la nuque qui est en bas. Je suis un peu voûtée comme ça, comme mes petites mamies, je l'ai déjà. Et pourtant, j'ai que 34 ans. J'ai que 34 ans et j'ai commencé à bosser à 23 ans. Donc, j'ai déjà le truc. Donc, j'essaie de me soigner. Quand je vois que je suis un peu penchée, je me redresse, je me dis non, non. Redresse-toi, t'es pas mamie encore. Donc, ouais, faut faire attention. Faut vraiment se préserver, faut penser à soi et faut aimer ce qu'on fait. Mais c'est un très beau métier par contre, c'est un métier passion.
Et ça reste utile.
Ah oui, ça reste utile, bien sûr. Après, le souci principal aussi, c'est que, attention, parce que si on est en labo privé, donc labo de ville, etc., on n'est pas très bien payé. Et ça, c'est pas un secret, hein. Vraiment, tout le monde le dit. Même quand moi j'ai fait mon BTS, ils m'ont dit « Vous êtes sûre, hein ? Parce que du coup, c'est pas beaucoup payé. » Donc, je me souviens qu'à l'époque où j'ai commencé à travailler, le SMIC, il était à 1100, je crois, un truc comme ça. Et moi, j'ai commencé à 1002. Donc, c'est vraiment pas beaucoup plus que le SMIC. Ça a pas changé. C'est toujours pas 1002, hein. Je rassure, le SMIC a augmenté, donc ils sont obligés d'augmenter les grilles. Mais en fait, ils veulent pas faire plus, et c'est le gros problème. C'est pour ça qu'ils ont beaucoup de mal à recruter, parce que la vie est chère. En plus, si on est dans une ville chère, c'est pire. Donc, faut vraiment être sûr de son choix. Faut être sûr de l'endroit où on atterrit. Et si c'est vraiment un métier qu'on veut faire, faut se battre.
En tout cas, je te remercie beaucoup pour tout ce que tu as dit. Avec C'était plaisir. Hyper enrichissant.
Merci beaucoup.
Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette interview. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lui accorder une jolie note sur votre plateforme d'écoute et à y laisser un commentaire. Et nous nous retrouvons très vite pour un nouvel invité. Belle journée !